Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble pour la suite du roman de Richard Brautigan, Le monstre des Hauklein. Contre la poussière. Le cocher et la veuve redescendirent tendrement enlacés. Le cocher dit : Merci encore de m'avoir montré tout cela. Le visage de la veuve brillait comme une étoile. Le cocher prétendait être très sérieux, mais on voyait bien qu'il plaisantait. Le cocher dit au voyageur assis autour de la table : C'est bien agréable de se reposer un peu en prenant une tasse de café. Cela rend le voyage plus plaisant, et ces petits gâteaux valent mieux qu'un coup de pied de mule en pleine tête. Indéniable. Vers midi, la diligence résonnait lourdement dans les montagnes. Il faisait une chaleur accablante. Cora, le marchand de fil de fer barbelé, s'était assoupi. Il ressemblait à une clôture endormie. Greer contemplait les seins gracieux de Magic Child qui gonflait sa longue robe toute simple. Cameron pensait à cet homme pendu au pont. Il avait l'impression qu'ils s'étaient saoulés ensemble à Billings, Montana, au début du siècle. Cameron n'en était pas certain. Mais le pendu accroché au pont ressemblait terriblement au type qui s'était saoulé avec lui à Billings. Si ce n'était pas lui, c'était son frère jumeau. Magic Child observait Greer qui fixait ses seins. Elle imaginait Greer les caressant distraitement de ses mains puissantes. Elle se sentait agréablement troublée car elle savait qu'elle coucherait avec Greer avant la fin du jour. Pendant que Cameron pensait au pendu accroché au pont, c'était peut-être à Denver qu'ils s'étaient saoulés tous les deux. Magic Child se demandait si elle baiserait avec lui également. Soudain, la diligence s'arrêta sur une crête d'où descendait une prairie en pente douce. Des vautours en quantité biblique tournoyaient au-dessus de cette prairie où ils se posaient avant de s'envoler de nouveau. On aurait dit des anges de chair appelés à se recueillir dans un temple formé par toutes ces petites masses blanches qui avaient cessé de vivre. « Des moutons !» hurla le cocher, « des milliers de moutons !» Il fouillait la prairie avec ses jumelles. Le cocher avait jadis été sous-lieutenant de cavalerie pendant les guerres indiennes. Aussi emportait-il toujours ses jumelles quand il partait dans sa diligence. Il avait renoncé à la cavalerie parce qu'il n'aimait pas tuer les Indiens. « Encore un coup de la Morning Country Ship Shooter Association !» dit-il. Les voyageurs de la diligence regardèrent par les fenêtres, puis ils descendirent de voiture et le cocher sauta de son siège. Tous s'étiraient et tentaient de se défroisser, tandis qu'en bas dans la prairie, les vautours dévoraient les moutons. Par bonheur, le vent soufflait dans l'autre sens et n'apportait pas jusqu'à eux l'odeur de mort. Ainsi pouvaient-ils contempler la mort sans en supporter l'intimité. Ces tueurs de moutons savent vraiment y faire, dit le cocher. Il suffit d'avoir un fusil, dit Cameron. Ils traversèrent Shadows Creek en fin d'après-midi. Il n'y a pas de pendu, se dit Cameron, comme la diligence s'enfonçait dans Billy. Le visage de Magic Child portait une expression de plaisir. Elle était heureuse d'être chez elle. Elle était partie depuis des mois, envoyée en mission par Miss Howe Klein, et les deux hommes étaient assis à côté d'elle. Elle était impatiente de revoir Miss Howe Klein. Elles auraient beaucoup de choses à se raconter. Elle pourrait parler de Portland à Miss Howe Klein. La respiration de Magic Child s'était faite plus rapide, en anticipation d'un contact sexuel avec Greer et Cameron. Naturellement, Greer et Cameron ne savaient pas encore qu'ils baiseraient bientôt avec Magic Child. Ils avaient bien remarqué que sa respiration avait changé. Mais ils en ignoraient la raison. Ils pensaient qu'elle était simplement contente de rentrer. À l'heure du souper, Billy était une ville bruyante. Le vent transportait une forte odeur de viande et de pommes de terre. Toutes les portes et toutes les fenêtres de Billy étaient ouvertes. Il avait fait très chaud ce jour-là et l'on pouvait entendre les gens manger et bavarder. Billy se composait d'une soixantaine de maisons et de hangars bâtis sur les deux rives du creek qui coulait dans un canyon dont les pentes couvertes de genévriers répandaient une odeur poivrée. Billy possédait trois bars, un café, un magasin important, un forgeron et une église. Mais on n'y trouvait ni hôtel, ni banque, ni médecin. Il y avait un marshal, officier de police municipale, mais pas de prison. Le marshal n'en avait pas besoin. Il s'appelait Jack Williams et il était capable à l'occasion d'être un véritable salaud. Pour lui, enfermer un homme dans une prison était pure perte de temps. Si quelqu'un à Billy troublait l'ordre public, Jack Williams lui foutait son poing sur la gueule et le jetait dans la rivière. Le reste du temps, il dirigeait un saloon très accueillant, ce Jack William House. Et tous les matins, il payait un verre à l'ivrogne municipal. Derrière l'église se trouvait un cimetière et le pasteur, un certain Frédéric Calms, passait son temps à faire des quêtes pour la construction d'une clôture autour du cimetière, parce que les cerfs y pénétraient pour brouter les fleurs et autres végétaux sur les tombes. Pour une raison demeurée mystérieuse, le pasteur devenait furieux dès qu'il apercevait les cerfs au milieu des tombes, et il se mettait à jurer effroyablement, mais personne ne prit jamais très au sérieux son désir de clôturer le cimetière. Les gens s'en foutaient complètement. « Alors il y a des cerfs dans le cimetière, en voilà une affaire. De toute façon, le pasteur est un peu cinglé. » Voilà ce que disaient les gens de Billy quand on leur parlait de cette fameuse clôture autour du cimetière. Greer, Cameron et Magic Child se rendirent chez le forgeron pour se procurer des chevaux. Ils devaient partir le lendemain matin pour aller chez Miss Howe Klein et ils voulaient être certains d'avoir des chevaux prêts à l'aube. Le forgeron possédait une sélection d'étranges chevaux qu'il louait parfois aux gens dont la tête lui revenait. Ce soir-là, il avait bu un seau de bière avec son dîner et il était d'excellente humeur. « Alors, Magic Child, dit-il, on ne te voyait plus? Tu étais en voyage? J'ai entendu dire qu'on tuait des gens à Campville. Je m'appelle Pils, ajouta-t-il à l'adresse de Greer et Cameron, en leur tendant une main devenue amicale par la bière qu'il avait bue. « Je m'occupe des chevaux, ici. Ben, »« Il nous faudra des chevaux demain matin, » dit Magic Child. « Nous allons chez Miss Howe Klein. »« Bon, je crois que je peux vous arranger ça. Il y en aura bien qui sera capable d'aller jusque-là, si vous avez de la chance. » Pils adorait faire des plaisanteries au sujet de ses chevaux. Il avait la réputation d'avoir les pires chevaux jamais réunis dans un même corral. L'un de ses chevaux avait l'échine si creuse qu'on aurait dit un quartier de lune en octobre. Il avait baptisé ce cheval Cairo et il disait aux gens « Voici mon cheval égyptien ». Un autre cheval n'avait plus d'oreilles. Un cow-boy ivre les avait arrachés à coups de dents pour gagner un pari de 50 cents. Je te parie 50 cents que je suis assez saoul pour arracher à coups de dents les oreilles d'un cheval. Bon Dieu, t'es pas assez saoul pour ça. » Un autre encore buvait du whisky. On mettait un quart de whisky dans son seau et il l'avalait d'un coup, puis il tombait raide sur le côté et tout le monde de s'esclaffer. Mais le pompon de la collection avait un sabot de bois. Il était né sans sabot arrière droit et quelqu'un lui en avait sculpté un dans un morceau de bois. Mais cette personne, un peu malade de la tête, s'était trompée en le sculptant et le tabot en bois ressemblait moins à un sabot de cheval qu'à une patte de canard. Et c'était vraiment insolite de voir ce cheval se promener avec une patte de canard en bois. Un jour, un politicien avait fait tout le long chemin depuis la Grande dans le seul but de voir ses chevaux, et l'on prétendait même que le gouverneur de l'Oregon en avait entendu parler. Comme ils allaient dîner au Masmith's Café, ils virent Jack William, le marshal de la ville, sortir de son saloon pour aller faire un petit tour. Quand il aperçut Magic Child, qui lui plaisait beaucoup, et les deux étrangers qui l'accompagnaient, il leur souhaita le bonsoir et s'approcha d'eux. « Bon sang, Magic Child !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. Il comprit tout de suite que les deux hommes ne gagnaient pas leur vie en travaillant, et il nota que rien dans leur aspect ne risquait de le faire remarquer. Ils se ressemblaient assez, malgré des traits et des silhouettes différentes. C'était leur façon de se tenir qu'on ne pouvait pas oublier. L'un d'eux était plus grand que l'autre, mais dès qu'on leur avait tourné le dos, on s'en souvenait plus. Jack Williams avait déjà vu des hommes pareils. Instinctivement, et sans avoir besoin de réfléchir, il savait qu'il pourrait attirer des ennuis. L'un d'eux portait une longue valise étroite sur l'épaule. Et il portait cette valise avec une telle facilité qu'elle semblait faire partie de son épaule. Jack Williams était une armoire. Il mesurait plus de 6 pieds de haut et pesait facilement 200 livres. Sa force était légendaire dans cette partie de l'Oregon de l'Est. Les hommes de mauvaises intentions évitaient généralement Billy. Jack Williams portait un gros 38 nickelé dans un étui accroché à l'épaule. Il détestait les ceintures cartouchières. Il disait en plaisantant qu'il n'aimait pas avoir toute cette ferraille si près de sa bite. Il avait 41 ans et il était en excellente santé. « Bon sang, Magic Child !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. « Jack !» dit-elle, « mon grand !» « Tu m'as beaucoup manqué, Magic Child, » dit-il. Il l'aimait beaucoup, mais parfois sa ressemblance étonnante avec Miss Hall Klein l'intimidait et le mettait mal à l'aise. Elles se ressemblaient comme des sœurs jumelles. Tout le monde en ville l'avait remarqué, mais de toute manière, personne ne pouvait rien y changer. Il fallait donc s'en contenter. « Ce sont mes amis, » dit-elle en faisant les présentations. « Voici Greer et Cameron. Je vous présente Jack Williams. Il est le marshal municipal. »
Didn't know me any better than that. of your chestnut mare shoot through my head, and I'm making me see stars. You hurt the words that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes, blood on your saddle. Eddie wind blowing through the flowers on your tomb, blowing through the curtains in your room. Eddie wind blowing every time you move your teeth. Us down and destiny which broke us apart. You tamed the lion in my cage, but it just wasn't enough to change my heart. Now everything's a little upside down. As a matter of fact, the wheels have stopped. What's good is bad, what's bad is good. You find out when you reach the top. Your corrupt ways had finally made you blind. I can't remember your face anymore. Your mouth has changed, your eyes don't look in the mind. The priest wore black on the seventh day and sat stone faced while a building burned. I waited for you on the running board near the cypress tree while the springtime turned to autumn. Eddie wind blowing like a circle around my skull, from the Grand Coulee Dam to the Capitol. Eddie wind blowing every time you move your teeth. You're an Eddie, babe. It's a one. Crawl past your door, I've been wishing I've been somebody else instead. Down the highway, down the tracks, down the road to ecstasy, I followed you beneath the stars, hounded by your memory and all your raging glory. I've been double-crossed now for the very last time, and now I'm finally goodbye, the howling beast on the borderline which separated you from me. You'll never know the hurt I suffered, nor the pain I rise above. And I'll never know the same about you, your holiness or your kind of love. And it makes me feel so sorry. Blowing through
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Richard Brautigan, Le monstre des Hawkline. La chaleur des retrouvailles entre Magic Child et Jack Williams s'arracha à Greer et Cameron un léger sourire. Salut, dit Jack Williams en leur serrant la main. Et que venez-vous faire par ici, les gars ? Laisse, dit Magic Child, ce sont des amis. Désolé, dit Jack en riant, désolé les gars, je possède un saloon ici, venez quand vous voudrez, ce sera ma tournée. Il avait le sens de la justice, et les gens le respectaient pour cela. Il plut immédiatement à Greer et Cameron. Ils appréciaient les gens de forte personnalité. Ils n'aimaient pas tuer des gens comme Jack Williams. Ils en ressentaient parfois des remords et Greer disait « Au fond, je l'aimais bien ». Et Cameron répondait « Ouais, c'était un type bien ». Puis il n'en parlait plus. À cet instant, des coups de feu retentirent dans les collines au-dessus de Billy. Jack Williams n'y prêta aucune attention. « 5, 6 », dit Cameron. « Quoi ?» demanda Jack Williams. « Il compte les coups de feu, » dit Greer. « Oh oui, ok, » dit Jack Williams. « Ils sont sans doute en train de s'entretuer ou d'abattre leurs bêtes. Franchement, je m'en fous. »« Pardon, » m'a dit Child. « Pardon, je parle comme un charretier. »« Pourquoi tire-t-on ? » demanda Greer en faisant un signe de tête en direction des collines dominant Billy et qui déjà se perdait dans le crépuscule. « Bah allons, les gars, vous devez bien le savoir, » dit Jack Williams. Greer et Cameron eurent de nouveau un léger sourire. Bon, « Je me moque bien de ce que ces éleveurs peuvent se faire. Ils peuvent s'entretuer s'ils sont assez bêtes pour cela, tant qu'ils ne viennent pas le faire dans les rues de Billy. Après tout, c'est l'affaire du shérif de Brooks. Il ne doit pas bouger souvent son cul de sa chaise, sauf justement quand il en cherche un de cul. Oh mon Dieu, voilà que je recommence, Magic Child. Vais-je jamais me corriger ?» Magic Child fit un petit sourire à Jack Williams. « Je suis bien contente d'être rentrée. » Elle posa gentiment sa main sur la sienne. Cela émut beaucoup le marshal de Billy, dont le nom était Jack Williams et qui avait la réputation d'un homme dur mais juste. « Bon, il faut que je m'en aille, » dit-il. « Je suis content de t'avoir revu, Magic Child. » Puis il se tourna vers Greer et Cameron et dit « Et vous, les gars de Portland, j'espère que vous allez bien vous amuser, mais n'oubliez pas, là-haut, pas ici. » En disant cela, il fit un geste en direction des collines. Ils dînèrent au Masmith's Café. Ils prirent des steaks, des pommes de terre frites et des biscuits, le tout généreusement arrosé de jus de viande. Les autres gens se demandaient ce qu'ils étaient venus faire en ville. Comme dessert, ils prirent de la tarte au mur, et les gens, pour la plupart des cow-boys, se demandaient aussi ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette longue valise étroite, posée à côté de leur table. Et Magic Child but un verre de lait avec son dessert, et les cow-boys ne savaient pas exactement pourquoi, mais la présence de Greer et de Cameron les rendait un peu nerveux. Tous ces cow-boys trouvaient Magic Child bien joli. Et ils se demandaient tous où elle avait pu être tous ces derniers mois. On ne l'avait pas vue en ville, elle avait dû partir, mais personne ne savait où. La présence de Greer et Cameron continua à rendre tout le monde un peu nerveux, sans qu'on sût pourquoi. Une chose pourtant était évidente, et c'était que Greer et Cameron n'avaient pas l'allure d'homme venu à Billy pour s'y installer. Greer aurait bien repris de la tarte au mur, mais il n'en fit rien. La pensée était plaisante. Il avait vraiment beaucoup aimé cette tarte et il était aussi agréable de penser à reprendre que de le faire. Cette tarte était délicieuse à ce point. Ils entendirent encore 6 ou 7 coups de feu résonner dans les collines pendant qu'ils finissaient leur café. Les coups de feu étaient méthodiques et avaient certainement été visés avec soin. Ils provenaient tous de la même arme, probablement un calibre 30-30, et celui qui tirait se concentrait totalement à chaque fois qu'il appuyait sur la détente. Ma Smith, une vieille femme acariâtre, cessa de regarder le steak qu'elle faisait frire pour un cow-boy et leva les yeux. C'était une forte femme au visage très rouge et dont les souliers paraissaient beaucoup trop petits pour ses pieds. Elle se considérait suffisamment volumineuse sans avoir à y ajouter de grands pieds, si bien qu'elle bourrait les pieds en question dans des souliers beaucoup trop petits, ce qui la faisait considérablement souffrir et lui gâtait sérieusement le caractère. Ses vêtements imprégnés de sueur lui collaient à la peau, tandis qu'elle allait et venait autour du gros fourneau à bois où elle faisait la cuisine par un soir déjà bien trop chaud en soie. Mentalement, Cameron se mit à compter les coups de feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cameron attendit le septième coup, mais ce fut le silence. La fusillade était terminée. Ma Smith se débattait furieusement avec le steak sur le fourneau. C'était le dernier qu'elle aurait à préparer ce soir-là et elle en était très heureuse. Elle en avait fait assez comme ça pour la journée. « Oh, je parie qu'on est en train de tuer quelqu'un là-bas, » dit le cow-boy dont on faisait cuire le steak. « Je m'attends à ce qu'un de ces jours, les tueries se répandent jusqu'ici. C'est seulement une question de temps, c'est tout. Qu'ils s'entretuent, je m'en moque. » Tant qu'on ne me tue pas. Tu ne te feras pas tuer ici, dit un vieux mineur. Tu peux compter sur Jack Williams. Ma Smith prit le steak et le posa dans une grande assiette blanche qu'elle apporta au cow-boy qui ne voulait pas être tué. Comment le trouves-tu ? Demanda-t-elle. Ah, faudrait peut-être encore un petit coup de feu, dit le cow-boy. « La prochaine fois que tu viendras, je te préparerai une grande assiettée de cendres avec quelques poils de vache au milieu, » répondit Ma Smith. Ils dormirent cette nuit-là dans la grange de Pils. Pils leur apporta des couvertures. « Je ne vous verrai sans doute pas demain matin, » dit Pils. « Vous partez à l'aurore, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Magic Child. Si vous changez d'avis ou bien si vous voulez prendre un petit déjeuner ou du café, vous n'aurez qu'à me réveiller ou venir chez moi pour le préparer vous-même. Tout est dans le garde-manger, dit Pils. Il aimait bien Magic Child. Merci, Pils, vous êtes gentil. Si nous changeons d'avis, nous irons dévaliser votre garde-manger, dit Magic Child. Parfait, dit Pils. J'espère que vous saurez vous coucher tout seul. C'était là son sens de l'humour après quelques sauts de bière. Magic Child avait en ville la réputation d'accorder généreusement ses faveurs. Elle avait même couché avec Pils, qui s'en était montré très heureux car il avait 61 ans, et il ne pensait plus que cela lui arriverait. Sa dernière maîtresse avait été une veuve en 1894, mais elle s'en était allée à Corvallis et ce fut la fin de sa vie amoureuse. Puis un soir, tout à coup, Magic Child lui avait dit « Quand avez-vous baisé pour la dernière fois ?» Il y avait eu un long silence et il était resté à regarder Magic Child fixement. Il savait qu'il n'était pas saoul à ce point. « Bon, ça fait des années. » Magic Child avait mis ses bras autour du cou de ce propriétaire d'étranges chevaux. Il avait 61 ans. Il était chauve, bedonnant et un peu ivre. Elle l'avait embrassé sur la bouche. « Je crois que ça va marcher. » Les portes claquaient. Les chiens aboyaient. La vaisselle du petit déjeuner tintait. Les coqs chantaient. Les gens toussaient, grognaient et s'agitaient. Le jour naissant résonnait dans Billy comme un bruit de tambour. Ce tambour matinal était gris-argent et il préludait aux différents événements qui allaient marquer ce 13 juillet 1902. L'ivrogne municipal était étalé le nez dans la poussière au milieu de la grande rue. Il gisait inconscient et paisible, sous le soleil poussiéreux de l'été, il avait les yeux fermés et un sourire en coin. Un gros chien jaune lui reniflait les bottes et un gros chien noir reniflait le gros chien jaune. Ces chiens étaient heureux. Tous les deux remuaient la queue. Une porte claqua et un homme cria si fort que les chiens cessèrent de renifler et de remuer la queue. « Où est ce bon Dieu de chapeau ?»«
Sur ta tête, idiot !» répondit une voix de femme.
Les chiens réfléchirent un moment, puis ils se mirent à aboyer et réveillèrent l'ivrogne municipal. Le lendemain, ils se levèrent à l'aube et se mirent en route sur leurs trois misérables chevaux en direction de Dead Hills. Dead Hills, les collines mortes. Ce nom leur allait comme un gant. On aurait dit l'œuvre d'un croque-mort confectionné avec les restes d'un enterrement. La maison de Miss Holklein se trouvait à 3 heures de cheval. La route était désolée, elle serpentait entre les collines comme l'écriture d'un mourant. Il n'y avait ni maison, ni grange, ni clôture, ni trace de présence humaine à part cette route à peine visible. L'unique réconfort provenait de la douce odeur des genévriers dans le petit matin. Cameron avait sanglé la longue et étroite valise d'armes en travers de sa selle. Il trouvait remarquable que l'animal puisse encore se mouvoir. Cameron faisait un gros effort pour se souvenir d'un cheval en aussi piteux état. « Quelle désolation !» dit Greer. Tout en chevauchant, Cameron comptait les collines. Il en compta 57, puis il abandonna. Cela devenait trop ennuyeux. « 57 !» dit-il. Il n'ajouta rien. En fait, ce 57 était le seul mot qu'il ait prononcé depuis leur départ de Billy quelques heures auparavant. Magic Child attendit que Cameron expliquât la raison de 57. Il n'en fit rien. Et il ne dit rien d'autre. « Et c'est là-bas qu'habite Miss Holklein, » dit Greer. « Oui, » répondit Magic Child. « Et elle adore les lieux. » Ils atteignirent finalement quelque chose d'humain, une tombe. Cette tombe se trouvait juste à côté de la route, un simple tas de cailloux couverts de fientes de vautour. Une croix en bois était plantée dessus. La tombe était si près de la route qu'il fallait presque en faire le tour. « Enfin, un peu de compagnie !» dit Greer. La croix était criblée de balles. La tombe avait servi de cible d'entraînement. « 9 !» dit Cameron. « Quoi ?» dit Magic Child. « Il dit qu'il y a 9 balles dans cette croix !» dit Greer. Magic Child jeta un coup d'œil à Cameron. Elle le regarda 10 secondes de plus qu'elle n'aurait dû le faire. « Ne faites pas attention à Cameron, » dit Greer. « Il aime compter les choses. Tu t'y habitueras. » Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Richard Brautigan, « Le monstre des Holklein » que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.